Et bonjour à tous et bonjour à toutes, il est midi sur Souvenir FM à Souston, merci David pour l'animation, on te retrouve juste après cette émission, après l'invité du 12-13, l'émission qui met en lumière les acteurs locaux, ceux qui agissent et qui s'engagent pour notre territoire. Et aujourd'hui, nous allons parler art et culture, puisque j'ai le plaisir de recevoir François Lousteau, directeur du Centre d'art contemporain de Labenne. Bonjour François.
Bonjour.
Et avec lui en studio, Gwendoline Leray, qui est une artiste actuellement en résidence dans les ateliers de création du parc. Bonjour Gwendoline, comment allez-vous ?
Très bien, merci, bonjour.
Bon, alors maintenant que les bonjours sont dits, c'est tout de suite l'heure du Flash Info national et international et on se retrouve juste après pour parler du parc et continuer nos échanges. À tout à l'heure. Et c'est parti pour l'invité du 12-13 aujourd'hui à Souston, où nous recevons François Lousteau et Gwendoline Leray. Alors nous allons démarrer, messieurs, dames, comme c'est la tradition, ici sur Souvenir FM, par une petite présentation personnelle des invités. On va peut-être commencer par François. Est-ce que vous pouvez nous exposer votre trajectoire personnelle ? Quel a été finalement votre parcours avant de diriger le parc de Labenne ?
Ouais. Donc je travaille pour le parc de Labenne depuis 2023 et auparavant je travaillais comme commissaire d'exposition indépendant dans une structure qui s'appelle La Maison, qui est basée à Bayonne. Et donc pendant une quinzaine d'années, j'ai fait du commissariat d'exposition et organisé de multiples projets auprès de musées, centres d'art, collectivités territoriales.
Vous étiez toujours dans la région ou vous avez un petit peu bougé ?
J'ai bougé avant. D'accord. Mais pour ces projets artistiques et culturels, c'est vraiment dans la région que j'avais à cœur de développer ça.
Bon, très bien. Et alors maintenant, on va passer à Gwendoline. Racontez-nous un petit peu votre parcours. J'ai cru comprendre que vous veniez initialement de la belle région de Bretagne.
Oui, je suis bretonne pure beurre.
Ouais.
Mais j'ai été expat 17 ans de ma vie.
Ouais.
J'ai vécu 10 ans à Madrid,
oui.
Où j'étais enseignante. Mmh. J'étais prof de français. Langue étrangère. Et j'ai fait une année de césure pour représenter la maison d'édition avec laquelle je travaillais à l'époque. Et j'ai décidé de m'installer au Costa Rica.
Ah.
Et donc j'y ai vécu 6 ans.
Oui.
Donc je suis revenue en France il y a 3 ans et je me suis installée dans les Landes dès mon arrivée.
En Landifornie.
En Landifornie, exactement.
Jamais loin de la mer et de l'océan.
Tout
on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais je crois que ça fait partie de votre inspiration et de votre quotidien. Je crois que c'est quelque chose d'important pour vous. Très bien, merci pour ces présentations, François et Gwendoline. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de ce beau centre d'art contemporain à Labenne, le pôle artistique créatif contemporain, donc le parc avec deux C. Hein. François, est-ce que vous pouvez brièvement revenir un petit peu sur l'histoire de ce lieu qui existe depuis 2 ans maintenant ? Comment il fonctionne finalement et quel est son rôle majeur ?
Oui, alors le parc dépend de la communauté de communes Max. Et en effet, c'était un projet de longue haleine pour aboutir jusqu'à l'ouverture en juin 2024. Le parc vient compléter en fait un schéma territorial d'équipement, notamment avec Pôle Sud dédié à la
culture et à la musique, ouais. Voilà. Sur Tyros.
Voilà, qui est aussi en régie directe de la communauté de communes. Donc voilà, c'était un projet assez long à mener, mais assez clair dans l'esprit des élus, de faire un pôle dédié aux arts visuels, quelque chose qui manquait un petit peu sur le territoire, et plus précisément sur la création contemporaine.
Voilà, qui manquait un petit peu sur le territoire, effectivement, parce que je me suis un petit peu renseigné aussi hors antenne pour ce qui concerne l'art contemporain. Entre Bayonne et Bordeaux, on n'a pas grand-chose, donc ça vient mailler un petit peu ce territoire sur la question. Et puis c'est l'occasion aussi de saluer le travail de la MAX sur tout ce qui est politique culturelle. Hein. Vous avez parlé de Pôle Sud, effectivement, c'est vrai que c'est un équipement, le parc qui vient s'ajouter à ça, quoi.
Oui, oui.
Et alors après, quels sont, d'un point de vue un petit peu plus pratique, comment est fait cet équipement ? Il est fait de bois. Alors il est assez joli d'un point de vue architectural.
Il est
à Labenne, donc pas loin du centre-ville, dans un théâtre de verdure. J'imagine que pour tout ce qui est création artistique, lieu artistique, c'est super, quoi.
C'est ça. Le lieu est assez phénoménal. Il séduit facilement les visiteurs qui arrivent jusqu'à nous parce qu'en effet, c'est une nouvelle architecture, architecture moderne, en effet en bois, avec une terrasse.
Oui.
Et une forme qui vient se lover dans le creux d'une dune, en fait. On est
dans l'arrière dune, la deuxième dune, finalement, pas celle qui est sur le littoral.
Mais il y en a une à 3-4 km du littoral.
Plus vertueux qu'ici dans les Landes.
Ouais, Oui, ouais, ça peut être Tuc, ces petites collines. Ouais. Voilà. Et donc, on est dans la forêt du théâtre de Verdure. Donc, on est isolé, en fait, de la ville de Labenne. Il n'y a pas de bâtiment autour de nous. Il faut faire la démarche de marcher. C'est pas long, hein, c'est 200 mètres à tout casser depuis le parking. Mais on s'isole et on vit une expérience vraiment de lien entre la culture et la nature.
Et la nature.
En face, parce que la forêt est particulièrement belle. C'est une forêt variée, assez sauvage. Voilà. C'est un très, très bel endroit.
Et donc vous en profitez tous les jours à votre bureau et puis les visiteurs peuvent aussi profiter de toutes les activités, toutes les expositions qui sont présentées. Alors j'ai retenu à peu près trois, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais j'ai retenu à peu près trois grands types d'actions ou d'activités au parc. Il y a grosso modo les expos. Donc est-ce que peut-être déjà vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Je crois qu'il y a trois salles d'expo, il y a 300 mètres carrés d'exposition sur cet équipement.
Oui. Le bâtiment en tout fait 800 mètres carrés, il y a 300 mètres carrés dédiés aux expositions, composées de trois salles. On a une grande salle de 200 mètres carrés qui est assez volumineuse avec 6 mètres sous plafond, donc c'est vraiment un grand espace. Et après on a une petite salle et singularité, on a aussi ce qu'on appelle une black box, c'est une salle de projection dédiée à la création vidéo.
D'accord.
Voilà. Et dans une année, on a trois grandes expositions en fait.
Oui.
Et on ferme entre
trois temps d'exposition. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous avez trois salles d'exposition, la grande, la petite et la vidéo, grosso modo.
Ouais.
Et vous avez trois expos par an.
C'est ça.
Donc ça fait, j'imagine, trois fois trois, neuf.
Voilà.
Ça fait, j'imagine, un peu de boulot pour le directeur que vous êtes et votre équipe pour sélectionner les artistes, décider des thématiques. D'ailleurs, comment ça se passe à ce niveau-là? J'imagine que vous faites, sur ces trois temps d'exposition, vous faites peut-être des... Il y a des thématiques particulières.
Oui, il y a plusieurs modalités différentes pour faire une exposition. On a aussi une orientation thématique qui est assez large, mais qui obéit au projet de territoire de la MAX.
Ouais.
Donc on est assez sensible aux questions d'environnement, de sobriété, de société aussi, le vivre ensemble, l'accès à la culture. Voilà, ça, ce sont des grandes lignes directrices. Donc on traite de ces sujets de société actuelle qui sont assez importants. Et donc après, c'est le travail de commissariat d'exposition de définir certaines parties de la programmation. Mmh. Mais on fait aussi... pas mal d'appels à projets.
Oui.
Voilà, appels à projets pour les expositions, pour les cours, pour les ateliers, de façon à ce que les prises de décision soient collégiales et associent les élus,
etc.
Et d'autres compétences extérieures également.
Ok, très bien. Voilà. En plus de ces espaces d'exposition, vous avez aussi, alors vous m'en avez parlé de quatre hors antenne, vous avez quatre ateliers, mais alors quand on parle d'ateliers physiques, vraiment de salles en fait, d'espaces de travail mis à disposition des artistes. Alors en quoi c'était important dans la programmation du lieu, en plus de ces salles d'exposition, de mettre ces espaces de travail à disposition des artistes?
Ouais. Le parc a vraiment été conçu comme un outil pour la création dans les arts visuels.
Ouais.
Donc on part de la production, donc c'est pour cela qu'on accueille des artistes.
Oui.
Ensuite il y a la diffusion et il y a aussi la médiation, donc la relation entre les œuvres et le public. Voilà, donc on a vraiment ces trois items qui sont représentés dans le parc. Et la partie atelier, en effet, c'est à l'arrière du bâtiment, on a... deux grands espaces, un espace plutôt dédié à du bricolage, à de la menuiserie, et un espace en mezzanine qui accueille des artistes plutôt pour la peinture, du dessin.
Et on en discutera après la première pause avec Gwendoline, qui est l'une de ces artistes bénéficiaires de ces ateliers. C'est déjà l'heure de notre première pause, messieurs, dames. Donc on va se laisser en musique et on se retrouve juste après pour la suite de nos échanges. Merci à vous deux, à tout à l'heure. Et nous voilà de retour pour la deuxième partie de l'invité du 12-13 où nous recevons aujourd'hui sur Souvenir FM à Souston le directeur du parc, le Centre d'art contemporain de Labenne, et une des artistes qui bénéficie des ateliers de création du parc, Gwendoline Leray. Donc je vais vous donner la parole maintenant, Gwendoline. Comment, quand on est artiste dans le coin, dans les Landes, on en arrive finalement à accéder à ces résidences d'artistes du parc? Comment est-ce que vous avez fait et comment ça se passe?
Alors, moi, j'étais en fait dans un petit atelier à Paix-de-Bert. Oui. J'avais à peine, je crois que j'avais 6 mètres carrés peut-être. Donc, ça devenait un petit peu petit pour moi, sachant que j'aime les grands formats. J'ai toujours beaucoup aimé peindre en grand. Et donc, j'avais envie de changement. J'avais peu d'échanges avec mes collègues qui étaient très sympas au demeurant, mais avec qui, il n'y avait pas forcément beaucoup de collaboration et on se croisait pas énormément. Et j'ai répondu un peu innocemment au projet en me disant je l'aurai pas, c'est sûr.
À l'appel à projet. Exactement. Parmi les nombreux appels à projet que vous lancez, c'est-à-dire qu'il y en a pour les expos et puis vous lancez aussi des appels à projet pour les résidences. Hein.
Ouais, je crois que c'est une amie artiste qui m'a transféré l'information et j'ai donc rempli un dossier. Heureusement, c'était pas très long parce que on a beaucoup d'administratifs, nous les artistes, ça paraît pas comme ça, mais on fait beaucoup d'appels à projets. Et du coup, j'ai répondu en me disant allez, on sait jamais. Et puis j'ai eu le plaisir d'avoir un appel de François qui me proposait un atelier. Et donc je l'ai incorporé, je me suis installée début janvier.
Et ça va durer 6 mois pour vous, c'est ça ?
6 mois, tout à fait. Donc là, je termine en juin.
Et alors vous nous disiez, d'accord, donc moi, qu'est-ce qui change finalement entre, donc il y a la place, j'imagine, mais il y a aussi l'émulation qui peut y avoir autour, parce que vous n'êtes pas la seule. D'ailleurs, François, vous nous disiez tout à l'heure en antenne que ça peut aller jusqu'à 6 mois, hein, ces résidences d'artistes, mais en fait c'est à la carte en fonction du projet de chacun, et ça peut être 2, 3 ou 4 mois aussi.
Ça peut être assez souple. Ouais. Là, en ce moment, on a trois résidentes. Oui. Y a Chloé Doulet qui est là pour 2 mois. Il y a Lise Kouma qui termine sa résidence qui a duré qu'un mois. Mais voilà, c'est un peu à la carte. Et pour les prochaines, pour le reste de l'année, en fait, il suffit de nous envoyer une petite demande s'il y a des artistes intéressés et on étudiera leur projet pour voir en effet comment ils peuvent rentrer dans l'agenda. Mais c'est vraiment un espace qui permet l'expérimentation. Je le vois avec Gwendoline, mais aussi avec les autres artistes. C'est souvent des temps de recherche et d'échange aussi entre artistes. C'est un lieu qui permet beaucoup cela.
Et oui, voilà, parlons des échanges entre artistes, parce qu'au-delà de l'aspect matériel, le fait d'avoir plus de place et tout, j'imagine que voilà, on parlait d'émulation tout à l'heure, c'est ce qui permet peut-être de stimuler un peu la création. Vous échangez ensemble. Et comment ça se passe à ce niveau-là?
Complètement. Moi, en fait, j'ai pas fait d'école d'art.
Ouais.
Autodidacte. Tout à fait, je suis autodidacte, mais du coup, c'est vrai que c'est pas toujours évident en tant qu'artiste. En France, on est quand même très guindé, hein, on va pas se mentir, hein, c'est un des pays les plus carrés dans tout ce qui est artistique. Moi, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai beaucoup vendu aux Californiens, aux Américains, aux Canadiens, ou même les Costariciens. Les gens se posent pas autant de questions. S'ils aiment, ils ont un coup de cœur, ils achètent. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'était hyper intéressant en fait de pouvoir dialoguer avec François, avec Louis qui du coup est médiateur, c'est que et donc qui me donne des astuces, des trucs. Ma collègue Marion, avec qui j'ai bien sympathisé également, me donnait des appels à candidature. On échange les bons procédés. Et c'est vrai que c'est une pratique, un travail qui peut très vite nous isoler, en fait. Surtout qu'il y a beaucoup de compétition, c'est un panier de crabes aussi. Donc là, d'être dans une petite bulle bienveillante, hein, parce que beaucoup de bienveillance au parc, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant.
Et ça, vos productions et vos créations en bénéficient finalement,
parce que je pense.
Vous êtes, rappelons-le, vous êtes peintre. Enfin, c'est de la peinture que vous faites. Oui. Alors, vous disiez que vous faites des grands formats. Parlez-nous un petit peu de vos inspirations et de votre univers finalement, de votre travail. Alors, quand on regarde un petit peu sur votre site internet, la mer, le surf et le soleil n'est jamais bien loin. Mais racontez-nous un petit peu tout ça.
Oui, donc bah, moi, je peins des gens heureux dans l'eau. Oui. là, cette année, depuis que je suis au parc, j'ai peint, je crois, une quinzaine d'œuvres, au moins. Donc, j'ai beaucoup aimé cette idée d'arriver à l'atelier, de savoir que je pouvais créer pendant 5 ou 6 heures, poser les pinceaux et rentrer chez moi. C'est vrai que jusque-là, je n'avais pas forcément cette possibilité, puisque je vous dis, mon atelier était petit. Où je pouvais pas. Voilà, je suis aussi maman solo, hein, donc j'élève ma fille seule et j'ai aussi cette difficulté là. Et là, de me dire, voilà, j'ai 4 ou 5 heures que je dois absolument utiliser et des expos à remplir, et etc. Donc j'y arrivais, j'y arrive, je mets mon uniforme et je produis. Et c'est hyper, hyper agréable, voilà, de pas. D'avoir tout cet espace créatif et dans cette petite bulle, c'est vrai que c'est un espace de verdure.
Cet écrin forestier.
Ouais, c'est ça, plein de pins landais, c'est magnifique, c'est cool.
Bon, mais très bien, ouais, très bien, très bien. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de votre univers, Gwendoline, revenons-en un petit peu au parc. Revenons-en au parc, François. Aujourd'hui, on a donc, vous disiez, 3 expositions, 9 fois par an, etc. On a les résidences d'artistes, mais on a aussi toute une multitude d'activités. Alors, vous parliez de médiation tout à l'heure, mais je crois que vous proposez notamment pour les vacances scolaires ou même quotidiennement aussi des activités de cours, d'initiation ou de découverte. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ces éléments-là?
Oui, on a un programme de médiation qui est assez riche, en fait, oui. Puisque ça va en effet de traditionnelles visites commentées des expositions. Il y a des cours pendant toute l'année, les mercredis et les samedis. Et en vacances scolaires, il y a des ateliers. Hier, on avait un atelier photo. Samedi prochain, il y a un atelier sur la laine.
Oui, alors parce qu'on en discutera en troisième partie aussi de la laine. Il y a une des expositions qui est autour de ça.
Oui, bon. Donc, il y a des cours, les ateliers, il y a des rencontres aussi, et on essaye de faire des petits événements.
Oui.
Par exemple, aussi, dans les ateliers de création, il y avait Marion Valerin qui a fait 6 mois dans nos ateliers. Et demain soir, on fait une petite inauguration, une rencontre avec l'artiste pour faire une restitution, en fait, de son travail qu'elle a pu mener pendant ces quelques mois au parc.
D'accord.
Et donc, c'est
l'occasion de découvrir un peu les coulisses de la création artistique.
Vendredi soir, si je dis demain.
Ouais, ok. Bon, mais très bien, merci. C'est déjà l'heure de faire notre deuxième pause. On va vous laisser avec Jean-Philippe Dandurand. Un petit peu de musique avant, bien sûr, on est sur Souvenir FM. Et Jean-Philippe Dandurand qui va vous présenter le Flash Info local, à tout à l'heure. Et nous sommes de retour dans l'invité du 12-13 sur Souvenir FM à Souston, où nous parlons culture et art contemporain avec Gwendoline Leray et François Lousteau. Alors François, nous étions dans l'exposition de toutes les actualités et toutes les actions que vous mettiez en place au sein du parc de la Benne. Donc on a parlé notamment des résidences d'artistes dont bénéficie Gwendoline. Vous parliez aussi un petit peu tout à l'heure des cours, etc. Est-ce que vous pouvez nous rentrer un petit peu dans le détail et nous donner un petit peu envie d'aller voir les 3 expos qui sont en ce moment au parc?
Oui. Alors en ce moment, il y a 3 expos, dont la principale s'intitule Carnaval. Mm-hmm. C'est une exposition de l'artiste Mona Cara. C'est une jeune artiste qui a 28 ans. Mm-hmm. Qui a grandi ailleurs, près de Toulon, et qui maintenant habite à Paris. Elle a fait les Beaux-Arts de Paris et les Arts Déco. Et sa spécialité, c'est le tissage, travailler avec du tissu, notamment du tissage jacquard. Et elle fait des œuvres assez monumentales. En fait, ce n'est pas simplement des tapisseries accrochées au mur.
Il y a de la 3D, c'est de la 3D, il y a de la hauteur.
Des tissus suspendus. Ouais. Donc c'est tout un travail technique, très intéressant, parce que le tissu qu'elle produit avec des machines, avec un programme informatique qu'elle détourne, qu'elle pousse un peu dans ses derniers retranchements, c'est vraiment tout un travail d'expérimentation autour du tissage. Ce tissu, ensuite, elle va le déconstruire, elle va le découper, elle va lui faire prendre des formes différentes, elle va rajouter des éléments, elle ou des personnes autour d'elle, de la dentelle, du tricot, des perles. Voilà, c'est quelque chose qui est
assez monumental.
Oui, assez monumental et assez foisonnant. Et tout cela avec une iconographie vraiment de notre époque, autour de la culture populaire. Des dessins animés, des médias, de la publicité, de la société de consommation.
D'accord.
Donc il y a beaucoup de figuration, ça parle aussi de mythologie. Et tout cela dans un engagement en fait lié à l'écologie.
Et oui.
Voilà, de dénoncer un petit peu nos actions que l'homme a sur la planète aujourd'hui, mais avec humour aussi, certain humour.
Donc ça, c'est l'exposition qui est dans la grande salle, j'imagine, parce qu'il doit falloir de l'espace en hauteur, et en longueur, en largeur. Donc il y a plusieurs compositions, c'est ça, qui sont présentées. Avec comment ça se passe dans ce cadre-là? On n'est pas dans de la peinture avec cartel, où il y a quand même un manifeste, j'imagine, qui explique un petit peu toute sa démarche.
Oui, c'est une exposition aussi assez didactique, parce qu'il y a une partie aussi qui présente, et ça c'est assez inédit dans le travail, dans les expositions de Mona Cara, c'est de présenter ses croquis, ses dessins, ses carnets, donc tout le travail préparatoire. Voilà, il y a tout un mur qui est dédié à ça, de montrer en effet comment elle collecte des informations, comment elle garde une mémoire de ses voyages, des gens qu'elle croise, des images qu'elle perçoit dans l'environnement. Et c'est autour de tout ça qu'elle réussit à produire des œuvres qui en effet viennent agglomérer comme ça différentes influences.
Très bien. Bon, mais ça donne effectivement envie de se déplacer jusqu'à La Benne pour aller voir cette exposition de Mona Cara. Alors à côté d'elle, il y a aussi une photographe, Clément Selman, une photographe du coin, je crois, qui est de la région, non ?
Oui, Clément Selman.
Qui expose ?
Elle a grandi entre Pau et la côte landaise.
Ouais.
Maintenant elle vit à Paris. C'est une artiste qui a été sélectionnée avec un appel à projet, parce que pour ces expositions dans la petite salle, on fonctionne avec des appels à projet. Elle a été sélectionnée parce que sa démarche était assez originale. Elle travaille notamment avec des photos de famille, avec des archives familiales prises par ses parents. Ouais. Donc on la voit quand elle était enfant, tout ça. Et donc c'est à partir de cette base d'images, elle va les détourner, elle va rajouter du texte, elle va les transfigurer. Et ça donne une exposition qui s'intitule « Tout est chaos », donc qui parle aussi du chaos du monde, d'une manière aussi un peu humoristique. L'humour, aussi bien dans Clément Selman que dans « Carnaval de Mona Cara », ça fait vraiment partie des propositions que l'on a en ce moment.
D'accord.
Parce qu'on est au cœur de l'hiver, on avait envie aussi de montrer qu'on peut peut-être dénoncer des choses, parler de choses sérieuses, mais avec un certain décalage.
Voilà, d'accord. Donc c'est un peu le on parlait tout à l'heure de ligne directrice, notamment sur les thématiques environnementales, etc. Là, pour le cadre d'exposition dans ce moment, il y a aussi donc l'humour, si je comprends bien, parce que le troisième larron de l'exposition, Augustin Rebété, lui, donc il est dans la salle vidéo, il fait de la vidéo. Et il me semble que c'est, alors ça s'appelle Liquid Panic, c'est ça.
Ouais,
et on est sur quelque chose aussi d'assez détonnant.
Oui, alors là, c'est vrai que ça envoie fort. Là, c'est un artiste suisse, mais de la Suisse profonde, de la campagne suisse.
Ouais.
Il vit dans un corps de ferme autour duquel il a créé une communauté artistique. Il travaille dans la performance, dans la musique, dans le théâtre, les arts graphiques. Et là, il a fait des vidéos que j'avais découvert aux rencontres de la photographie art l'été dernier.
Oui.
Et c'est deux vidéos qui sont complètement déjanté, qui montre que la création peut se faire de manière improvisée avec trois fois rien, mais c'est vraiment jubilatoire à voir.
Univers un peu punk,
c'est quelque chose d'un peu trash, un peu punk, et qui fait du bien, je trouve, aussi à notre époque de montrer qu'on peut aussi se laisser aller comme ça vers des choses assez extrêmes et assez audacieuses et assez amusante.
Ouais, ouais. Et alors de votre côté, Gwendoline, est-ce que ces expos que vous avez l'occasion de voir et de revoir du coup en étant en résidence, est-ce que ça a un petit peu changé votre coup de pinceau ou pas du tout? Est-ce que ça vous a donné d'autres idées de création ou...
Je ne sais pas si ça m'a trop inspirée par rapport à mes créations à moi, mais c'est plus leur démarche, je pense. Et toute la présentation qu'il y a derrière, tout le dialogue avec le collectionneur ou les galeries d'art, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est vrai que moi, je suis dans le figuratif.
Oui,
et on y revient. Je pense qu'en France, il y a un peu de dédain par rapport aussi au figuratif, malheureusement, mais c'est un fait. On va considérer que c'est moins intelligent, peut-être.
Ah.
Donc, du coup, c'est un dialogue que moi, j'ai eu justement depuis que je suis au parc là-dessus, c'est comment présenter ma peinture. Moi, j'ai des thèmes qui m'ont pas mal interpellée aussi pendant les derniers mois, notamment la condition féminine. J'en parle dans mes peintures. Je parle beaucoup de la place de la femme, de l'amour. Ma dernière expo s'appelait, du coup, est-ce qu'elle est démontée, à Seignos, l'amour à la plage. Et donc j'ai essayé de faire intervenir des sportifs landais, des surfeurs, des surfeuses, de les montrer dans mes peintures, mais j'ai beaucoup travaillé. Par exemple, moi, je me suis peinte à l'occasion de cette autoportrait.
C'était première pour vous?
C'est ça. C'était une des premières fois où la première fois où je me peignais. J'ai fait deux peintures dans lesquelles je suis représentée, donc dans l'eau, évidemment, en train de nager. Et j'ai ressenti beaucoup d'émotions parce que donc je suis maman, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maman solo. Ouais. Et en fait, il y a tout un rapport à mon corps, se réapproprier son corps. Et quand on le peint, c'est sûr que ça fait passer des émotions.
À soi-même et puis et à ceux à qui ça peut parler, de plus ou moins loin. Ok, bon, mais très bien. Est-ce que j'avais envie de profiter de vous avoir ici, avant d'avoir des professionnels de la culture et de l'art sur le plateau, hein, c'est une première pour moi de toute façon. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le métier d'artiste en 2026 se porte bien, ou est-ce que c'est peut-être plus compliqué qu'avant? Quel regard vous portez là-dessus?
C'est toujours difficile. C'est un milieu qui se structure, qui devient de plus en plus professionnel, parce qu'il y a en effet des réseaux qui sont là pour mettre les gens en relation, pour réunir les structures sur des questions liées à la professionnalisation de l'artiste. Je pense notamment au réseau Astre à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, qui réunit une centaine de structures et au sein desquelles on travaille ces questions liées à la vie de l'artiste.
Oui.
Où on met à plat aussi les questions de rémunération de l'artiste, qui sont des choses importantes et qui, nous, pour le parc, sont des choses que l'on essaye de suivre. Vraiment une exigence de faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur métier. Donc on aide les artistes qui exposent, mais aussi on fait appel à des artistes pour encadrer des stages, pour aider au montage d'expositions, pour les cours. Voilà, on essaye d'être un acteur,
un soutien
à la création à ce niveau-là.
Très bien. Bon, mais très bien. Écoutez, c'est déjà l'heure de faire notre dernière pause, François et Gwendoline. On se retrouve après une petite pause musicale pour la dernière partie de notre émission. Et nous voilà de retour sur l'invité du 12-13 Souvenir FM, Souston. C'est déjà l'heure de notre dernière partie. C'est le moment d'évoquer peut-être, François, les actualités à venir pour le parc.
En cours, la dure jusqu'au 3 mai. Et ensuite, à partir du 23 mai, il y aura la saison estivale avec notamment Julien Jacquat, qui est l'artiste du territoire, qui a son atelier à Seignos. Et ça va être une sorte de révélation en fait de cet artiste ici. C'est un artiste qui fait de la peinture, influencé par, on va dire, par l'idée d'évasion, de liberté, de grands espaces, de désert américain, de l'univers des bikers,
Far West,
rock'n'roll,
western,
musique forte, des choses comme ça.
Uh-huh.
Et donc autour de ça, il a développé toute une iconographie très très intéressante, à la fois inspirée du minimalisme américain, mais aussi nourrie de beaucoup de choses, d'objets ethniques. Par exemple, on va présenter des objets de sa collection qui font des masques africains à des figures amérindiennes. Voilà, il y a tout un univers que l'on va essayer de développer et qui est tout à fait singulier.
Voilà, donc on est Jérémy Jacquat.
Voilà, Julien Jacquin.
Ah, Julien, pardon. Ouais. Julien Jacquin, pardon.
On est très, très fiers de montrer ce travail qui est présent à l'international, mais très, très peu en France. Il travaille beaucoup avec des galeries aux États-Unis, en Europe, en Asie, mais assez peu par ici. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'inédit sur le territoire. Et autour de Julien Jacquin, il y aura aussi une autre proposition de Lise Fournier qui travaille les couleurs du ciel.
Ok.
Parce que cet été, il y aura notamment une éclipse totale de soleil dans la région. Et donc, on va aussi profiter développer de l'événement, une thématique sur cette idée-là.
D'accord.
Voilà.
Bon, donc ça, c'est les prochaines expos après celles qui sont que vous avez présentées tout à l'heure.
Ouais.
Et je crois aussi que il y a très prochainement, même je crois que c'est demain, non, des ateliers autour de la laine, c'est
oui,
ça
tout
vous
à
voulez
fait.
En dire deux mots.
Oui, ce samedi, donc.
Voilà, samedi, après-demain. Demain.
Demain. ce samedi, donc, nous avons invité Natacha Sansos, qui est une artiste qui a commencé son travail dans les Landes, qui maintenant est du côté d'Oloron, au pied des Pyrénées,
oui.
Et qui travaille toutes les questions liées à la filière de la laine. Donc, jusqu'à présent, la laine de mouton, on a beaucoup de moutons dans les Pyrénées, c'était quelque chose qui était mis au rebut, dont on ne se souciait pas. Et ces derniers temps, vraiment, il y a quelque chose qui est réactivé avec des gens qui filent la laine.
Oui.
Et elle travaille vraiment sur cette idée de récupération. Et elle fait un atelier sur le feutrage de laine.
Sur le feutrage de laine,
voilà,
ok.
Un atelier qui va durer 2 heures. Où alors, elle va initier en fait au travail de la laine, et ça sera suivi à 16h30 samedi, donc avec une rencontre avec cet artiste. Et
d'accord.
Natacha Sansos a vraiment un travail foisonnant, aussi bien local sur les questions de pastoralisme qu'au niveau européen, enfin, dans beaucoup de pays, pour travailler ces questions-là. Quelle est notre relation aujourd'hui au vivant, aux traditions, aux ressources naturelles. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant à découvrir.
Donc rendez-vous samedi après-midi au parc pour ça. Et alors il y a aussi une petite annonce qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire que il y a un autre artiste qui va exposer chez vous qui s'appelle Jérémy Gouelou.
Ouais.
Et avis qui est dans le coin, ou qui sera dans le coin dans pas longtemps.
C'est un artiste qui est de Nantes.
D'accord. Et il va venir un peu en préambule de son exposition. Et figurez-vous, donc avis aux auditeurs qui auraient des vieilles pellicules périmées. Alors je sais pas s'ils cherchent des pellicules vierges ou des pellicules déjà utilisées, mais en tout cas il a besoin. Vous avez toutes les infos sur le site aussi du parc. Mais dans le cadre donc de son travail, il mène un travail photographique. Et donc il sollicite l'aide de ceux qui auraient à lui donner des pellicules périmées pour pouvoir travailler, quoi. C'est
ça. Oui, c'est ça. C'est un artiste qui exposera à partir du mois de septembre, mais une exposition, ça s'anticipe. Voilà, il y a beaucoup d'étapes auparavant. Et là, il va venir à partir de la semaine prochaine, 15 jours. Il reviendra 15 jours au début de l'été. Pour s'immerger sur ce territoire des Landes, parce que les expositions, c'est bien aussi qu'elles aient du lien
territorial
avec le territoire, avec ce qui s'y passe, avec sa géographie, avec son histoire. Et Jérémy Gouelou est de formation géographe et urbaniste, donc
comme
il s'intéresse beaucoup
au territoire, bien sûr.
Au territoire, aux gens qui y vivent.
À l'histoire, au terroir, tout ça, bien évidemment.
Donc il va venir ici, il va loger au camping de la Benne, il va essayer de rencontrer des gens, de faire des parcours à pied ou du covoiturage avec des gens pour discuter, pour avoir une appréhension un peu différente que l'on a du
Des gens qui vivent dans l'endroit où il va exposer. Bon, c'est très intéressant tout ça.
C'est très intéressant, très intéressant comme démarche. Et il a ensuite une production photographique vraiment singulière, qui part en effet de pellicules anciennes qui ont une texture et et une certaine un côté aléatoire du rendu.
Oui.
Et donc il cherche des pellicules anciennes qui seront aussi rencontrer des gens qui ont des vieilles pellicules des années 80 ou 70. Voilà, c'est aussi toute une démarche liée à la rencontre avec les autres.
Bon, si vous en avez, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rapprocher du parc pour pouvoir livrer vos vieilles pellicules. Alors pour vous, Gwendoline, quelles seront les actualités chaudes?
Alors moi, j'ai avec ma galeriste à Biarritz une rencontre avec l'artiste, donc c'est moi l'artiste en l'occurrence. Donc on va recevoir ses collectionneurs, son carnet d'adresses. Je vais pouvoir me présenter puisque ça va faire quelques mois là qu'elle m'expose à Biarritz. Et donc c'est le 15 mai à la galerie Sophie Lézère à Biarritz. Ensuite, en juin, j'ai une exposition à la médiathèque de Magesque, qui vient de s'organiser la semaine dernière à l'occasion de mon expo à Seignos.
Ouais.
Je vais exposer aussi dans un magasin de céramique à Bayonne, où je pourrai aussi collaborer avec la céramiste et faire une petite collab et proposer des ateliers. Parce que je suis aussi prof de peinture à mes heures perdues. Ouais. Et ensuite, j'ai une grosse collaboration qui va sortir. C'est avec une grande ancienne française qui va sortir en juillet. Et pour l'instant, je ne peux pas en dire plus.
On ne peut pas en dire plus, mais rendez-vous sur vos réseaux sociaux, Instagram, site internet, pour vous tenir au courant. Bien, messieurs, dames, c'est déjà la fin de notre émission. On aurait pu parler encore une demi-heure de plus. Je vous remercie de votre présence et puis de nous avoir présenté vos activités respectives, notamment le bel équipement du parc de la Benne. Merci, François. Et puis, bravo aussi pour tout ce que vous faites dans vos créations, Gwendoline.
Merci.
Et je vous remercie. Merci. Et puis je vous laisse en compagnie de David pour l'animation et on se retrouve une prochaine fois dans l'invité du 12-13 ici à Souston. Au revoir à tous.
Au revoir. Merci, au revoir.